Jules Verne, autour de la Lune. Chapitre 9. Conséquences d'une déviation. Barbicane n'avait plus d'inquiétude, sinon sur l'issue du voyage, du moins sur la force d'impulsion du projectile. Sa vitesse virtuelle l'entraînait au-delà de la ligne neutre. Donc il ne reviendrait pas à la Terre. Donc il ne s'immobiliserait pas sur le point d'attraction. Une seule hypothèse restait à se réaliser, l'arrivée du boulet à son but sous l'action de l'attraction lunaire. En réalité, c'était une chute de 8296 lieues sur un astre. Il est vrai où la pesanteur ne doit être évaluée qu'au sixième de la pesanteur terrestre. Chute formidable néanmoins, et contre laquelle toute précaution voulait être prise sans retard. Ces précautions étaient de deux sortes. Les unes devaient amortir le coup au moment où le projectile touchera le sol lunaire, les autres devaient retarder sa chute, et par conséquent la rendre moins violente. Pour amortir le coup, il était fâcheux que Barbicane ne fût plus à même d'employer les moyens qui avait si utilement atténué le choc du départ, c'est-à-dire l'eau employée comme ressort et les cloisons brisantes. Les cloisons existaient encore, mais l'eau manquait, car on ne pouvait employer la réserve à cet usage, réserve précieuse pour le cas où pendant les premiers jours, l'élément liquide manquerait au sol lunaire. D'ailleurs, cette réserve eût été très insuffisante pour faire ressort. La couche d'eau emmagasinée dans le projectile au départ et sur laquelle reposait le disque étanche n'occupait pas moins de 3 pieds de hauteur sur une surface de 54 pieds carrés. Elle mesurait en volume 6 mètres cubes et en poids 5750 kilogrammes. Or les récipients n'en contenaient pas la cinquième partie. Il fallait donc renoncer à ce moyen si puissant d'amortir le choc d'arrivée. Fort heureusement, Barbicane, non content d'employer l'eau, avait muni le disque mobile de forts tampons à ressort, destinés à amoindrir le choc contre le culot après l'écrasement des cloisons horizontales. Ces tampons existaient toujours. Il suffisait de les rajuster et de remettre en place le disque mobile. Toutes ces pièces, faciles à manier, puisque leur poids était à peine sensible, pouvaient être remontées rapidement. Ce fut fait. Les divers morceaux se rajustèrent sans peine, affaire de boulons et d'écrous. Les outils ne manquaient pas. Bientôt le disque remanié reposa sur ses tampons d'acier, comme une table sur ses pieds. Un inconvénient résulta du placement de ce disque. La vitre inférieure était obstruée. Donc, impossibilité pour les voyageurs d'observer la Lune par cette ouverture, lorsqu'ils seraient précipités perpendiculairement sur elle. Mais il fallait y renoncer. D'ailleurs, par les ouvertures latérales, on pouvait encore apercevoir les vastes régions lunaires, comme on voit la Terre de la nacelle d'un aérostat. Cette disposition du disque demanda 1 heure de travail. Il était plus de midi quand les préparatifs furent achevés. Barbicane fit de nouvelles observations sur l'inclinaison du projectile. Mais à son grand ennui, il ne s'était pas suffisamment retourné pour une chute. Il paraissait suivre une courbe parallèle au disque lunaire. L'astre des nuits brillait splendidement dans l'espace, tandis qu'à l'opposé, l'astre du jour l'incendiait de ses feux. Cette situation ne laissait pas d'être inquiétante. « Arriverons-nous ?» dit Nicholl. « Faisons comme si nous devions arriver, » répondit Barbicane. « Vous êtes des trembleurs, » répliqua Michel Ardan. « Nous arriverons, et plus vite que nous ne le voudrons. » Cette réponse ramena Barbicane à son travail préparatoire, et il s'occupa de la disposition des engins destinés à retarder la chute. On se rappelle la scène du meeting tenu à Tampa Town, dans la Floride, alors que le capitaine Nicholl se posait en ennemi de Barbicane et en adversaire de Michel Ardan. Au capitaine Nicholl, soutenant que le projectile se briserait comme verre, Michel avait répondu qu'il retarderait sa chute au moyen de fusées convenablement disposées. En effet, de puissants artifices, prenant leur point d'appui sur le culot et fusant à l'extérieur, pouvait, en produisant un mouvement de recul, enrayer dans une certaine proportion la vitesse du boulet. Ces fusées devaient brûler dans le vide, il est vrai, mais l'oxygène ne leur manquerait pas, car elles se le fournissaient elles-mêmes, comme les volcans lunaires, dont la déflagration n'a jamais été empêchée par le défaut d'atmosphère autour de la Lune. Barbicane s'était donc muni d'artifices renfermés dans de petits canons d'acier taraudé, qui pouvaient se visser dans le culot du projectile. Intérieurement, ces canons affleuraient le fond. Extérieurement, ils le dépassaient d'un demi-pied. Il y en avait 20. Une ouverture, ménagée dans le disque, permettait d'allumer la mèche dont chacun était pourvu. Tout l'effet se produisait au dehors. Les mélanges fusants avaient été forcés d'avance dans chaque canon. Il suffisait donc d'enlever les obturateurs métalliques engagés dans le culot et de les remplacer par ces canons qui s'ajustaient rigoureusement à leur place. Ce nouveau travail fut achevé vers 3 heures, et toutes ces précautions prises, il ne s'agit plus que d'attendre. Cependant, le projectile se rapprochait visiblement de la Lune. Il subissait évidemment son influence dans une certaine proportion, mais sa propre vitesse l'entraînait aussi, suivant une ligne oblique. De ces deux influences, la résultante était une ligne qui deviendrait peut-être une tangente. Mais il était certain que le projectile ne tombait pas normalement à la surface de la Lune, car sa partie inférieure, en raison même de son poids, aurait dû être tournée vers elle. Les inquiétudes de Barbicane redoublaient à voir son boulet résister aux influences de la gravitation. C'était l'inconnu qui s'ouvrait devant lui, l'inconnu à travers les espaces intrastellaires. Lui, le savant, il croyait avoir prévu les 3 hypothèses possibles. Le retour à la Terre, le retour à la Lune, la stagnation sur la ligne neutre. Et voici qu'une 4e hypothèse, grosse de toutes les terreurs de l'infini, surgissait inopinément. Pour ne pas l'envisager sans défaillance, il fallait être un savant résolu comme Barbicane, un être flegmatique comme Nicole, ou un aventurier audacieux comme Michel Ardan. La conversation fut mise sur ce sujet. D'autres hommes auraient considéré la question au point de vue pratique. Ils se seraient demandé où les entraînait leur wagon projectile. Eux pas. Ils cherchèrent la cause qui avait dû produire cet effet. « Ainsi, nous avons déraillé, » dit Michel. « Mais pourquoi ?»« Je crains bien, » répondit Nicole, « que malgré toutes les précautions prises, la Columbiade n'ait pas été pointée juste. Une erreur, si petite soit-elle, devait suffire à nous jeter hors de l'attraction lunaire. » « On aurait donc mal visé, » demanda Michel. « Je ne le crois pas, » répondit Barbicane. « La perpendicularité du canon était rigoureuse, sa direction sur le zénith du lieu incontestable. Or, la Lune passant au zénith, nous devions l'atteindre en plein. Il y a une autre raison, mais elle m'échappe. » « N'arriverons-nous pas trop tard ?» demanda Nicole. « Trop tard ?» fit Barbicane. « Oui, » reprit Nicole. « La note de l'observatoire de Cambridge porte que le trajet doit s'accomplir en 97h13min20s. Ce qui veut dire que plus tôt, la Lune ne serait pas encore au point indiqué, et plus tard elle n'y serait plus. » « D'accord, » répondit Barbicane. « Mais nous sommes partis le 1er décembre à 11h-13min25s du soir, et nous devons arriver le 5 à minuit, au moment précis où la Lune sera pleine. Or, nous sommes au 5 décembre. Il est 3h30 du soir, et 8h30 devrait suffire à nous conduire au but. Pourquoi n'y arrivons-nous pas ?»« Ne serait-ce pas un excès de vitesse ?» répondit Nicole. « Car nous savons maintenant que la vitesse initiale a été plus grande qu'on ne supposait. » « Non, 100 fois non, » répliqua Barbicane. « Un excès de vitesse, si la direction du projectile eût été bonne, ne nous aurait pas empêchés d'atteindre la Lune. Non, il y a eu déviation, nous avons été déviés. »« Par qui ? Par quoi ?» demanda Nicole. « Je ne puis le dire, » répondit Barbicane. « Eh bien, Barbicane, » dit alors Michel, « veux-tu connaître mon opinion sur cette question, de savoir d'où provient cette déviation ?» Parle. Je ne donnerai pas un $0.5 pour l'apprendre. Nous sommes déviés, voilà le fait. Où allons-nous ? Peu m'importe. Nous le verrons bien. Que diable ! Puisque nous sommes entraînés dans l'espace, nous finirons bien par tomber dans un centre quelconque d'attraction. Cette indifférence de Michel Ardan ne pouvait contenter Barbicane. Non que celui-ci s'inquiétât de l'avenir. Mais pourquoi son projectile avait dévié ? C'est ce qu'il voulait savoir à tout prix. Cependant, le boulet continuait à se déplacer latéralement à la Lune, et avec lui le cortège d'objets jetés au dehors. Barbicane put même constater, par des points de repère relevés sur la Lune, dont la distance était inférieure à 2000 lieues, que sa vitesse devenait uniforme. Nouvelle preuve qu'il n'y avait pas de chute. La force d'impulsion l'emportait encore sur l'attraction lunaire. Mais la trajectoire du projectile le rapprochait certainement du disque lunaire, et l'on pouvait espérer qu'à une distance plus rapprochée, l'action de la pesanteur prédominerait et provoquerait définitivement une chute. Les trois amis, n'ayant rien de mieux à faire, continuèrent leurs observations. Cependant, ils ne pouvaient encore déterminer les dispositions topographiques du satellite. Tous ces reliefs se nivelaient sous la projection des rayons solaires. Ils regardèrent ainsi par les vitres latérales jusqu'à 8 heures du soir. La Lune avait alors tellement grossi à leurs yeux qu'elle masquait toute une moitié du firmament. Le soleil, d'un côté, l'astre des nuits de l'autre, inonda le projectile de lumière. En ce moment, Barbicane crut pouvoir estimer à 700 lieues seulement la distance qui les séparait de leur but. La vitesse du projectile lui parut être de 200 mètres par seconde, soit environ 170 lieues à l'heure. Le culot du boulet tendait à se tourner vers la Lune sous l'influence de la force centripète, mais la force centrifuge l'emportant toujours, il devenait probable que la trajectoire rectiligne se changerait en une courbe quelconque, dont on ne pouvait déterminer la nature. Barbicane cherchait toujours la solution de son insoluble problème. Les heures s'écoulaient sans résultat. Le projectile se rapprochait visiblement de la Lune, mais il était visible aussi qu'il ne l'atteindrait pas. Quant à la plus courte distance à laquelle il en passerait, elle serait la résultante des deux forces, attractive et répulsive, qui sollicitaient le mobile. Je ne demande qu'une chose, répétait Michel, passer assez près de la Lune pour en pénétrer les secrets. Maudite soit alors, s'écria Nicole, la cause qui a fait dévier notre projectile. Maudit soit alors, répondit Barbicane, comme si son esprit eût été soudainement frappé, maudit soit le bolide que nous avons croisé en route. Hein ? Fit Michel Ardan. Que voulez-vous dire ? S'écria Nicole. Je veux dire, répondit Barbicane d'un ton convaincu, je veux dire que notre déviation est uniquement due à la rencontre de ce corps errant. Mais il ne nous a même pas effleurés, répondit Michel. Qu'importe. Sa masse, comparée à celle de notre projectile, était énorme, et son attraction a suffi pour influer sur notre direction. Si peu ? S'écria Nicole. Oui, Nicole, mais si peu que ce soit, répondit Barbicane, sur une distance de 84 000 lieues, il n'en fallait pas davantage pour manquer la Lune.